Mais ça commence en Jésus. Jésus qui était sa dernière semaine, il prêche dans le temple, dans ce beau temple, et on peut le mettre une belle image à ce sujet-là. Et le temple d'Hérode faisait absolument la fierté des disciples au temps de Jésus. Du temps de Jésus, le temple d'Hérode était une des grandes merveilles du monde ancien. Le temple d'Hérode était fondé, il y avait des fondements de grands blocs de pierre, puis certaines de ces pierres-là mesuraient 12 mètres de longueur par 3 mètres et demi de largeur, 3 mètres et demi d'hauteur. Quand on regarde ça, c'est le mur occidental, les ruines du dernier temple d'Hérode, et on n'arrive pas à descendre plus en bas, mais plus on arrive en bas, plus on arrive avec de ces grandes pierres qui pouvaient aller jusqu'à 12 mètres de long. Vous imaginez la grandeur de ça? Et à l'intérieur du temple, à l'intérieur de ces grandes pierres-là, encore aujourd'hui, les Juifs, ils viennent au mur occidental, au mur de Jérusalem, puis ils le décorent, ils placent des prières, ils placent des offrandes à travers les cracks qu'ils peuvent trouver, ils prient, puis là, ils remplissent les trous de prières. Parce que ce mur parle de leur héritage. Mais à l'intérieur de ce temple-là, du temps d'Hérode, il y avait plein d'ornements d'or, c'était magnifique. Et les disciples, quand ils étaient avec Jésus puis qu'ils quittaient, ils disent, comme ils parlaient des belles pierres puis des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple qui était ordonné, ils étaient fiers. Et il va dire à Jésus, « Hey, as-tu vu ça? As-tu vu comme c'est beau le temple? » L'architecture puis les décorations du temple témoignaient de toute l'histoire juive. Le temple lui-même parlait de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors les disciples de Jésus, ils ne faisaient pas exception des autres Juifs. Ils se réjouissaient de leur temple national, de la splendeur de leur lieu de culte. Et Jésus, comme je dis, qui se trouvait dans cet environnement-là, les disciples lui font remarquer la beauté exceptionnelle du temple. Mais Jésus va péter le ballon. As-tu vu, Seigneur, le temple? Comment c'est beau, ces fondements-là, ces merveilleuses pierres? As-tu vu ces belles ornements d'or qui le parent? Et Jésus va leur donner une annonce tout à fait bouleversante. Jésus va surprendre les disciples avec une réponse qui va les piquer au cœur, qui va piquer au cœur leur fierté religieuse, leur fierté nationale. Jésus va leur rappeler que dans la nouvelle alliance, la relation avec Dieu n'aura pas besoin de lien avec le temple de Jérusalem. C'est correct d'aller visiter Jérusalem aujourd'hui, c'est correct de voir le temple. Mais ce n'est pas en allant là que je vais avoir une relation avec Dieu en particulier. Et Jésus leur rappelle que dans cette nouvelle alliance, le temple, ce n'est pas la bâtisse à Jérusalem. Mais dans la nouvelle alliance, c'est où le temple? Vous êtes le temple de Dieu. Quand vous venez le dimanche matin, vous ne venez pas à l'église, non? Vous ne venez pas dans un sens, à la maison de Dieu, si je peux dire. Oui et non. Vous venez en église. Parce que l'église, c'est les croyants. Parce que la maison de Dieu, c'est nous, les personnes, pas le bâtiment. Et pour nous, ça a une importance, certainement, le bâtiment où on peut se rassembler, surtout aujourd'hui, il faisait un peu froid ce matin quand vous êtes levé. Je suis bien content qu'il y ait de la chaleur ici, puis qu'on soit ensemble, plutôt qu'on s'assoie sur le bord d'une petite rivière Montmorency, là, puis qu'on ait notre culte dehors. C'est bon d'être à la chaleur ici. Mais la réalité, on a de l'importance pour le bâtiment, mais la réalité de la relation avec Dieu est là à cause de notre cœur. Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Et tout l'apparat de la religion juive, toute sa fierté des disciples avaient envers le temple, Jésus était sur le point de la faire disparaître. Dieu, Étienne va dire plus tard, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dans la nouvelle alliance, Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, nous dit Jean 4, 23. Dieu habite désormais dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Et quand les premiers disciples ont prêché ce message-là, ça n'a pas été très agréable pour les Juifs non plus. Étienne a été ce premier martyr de l'Église. On trouve ça dans Actes au chapitre 7. Et dans Actes chapitre 7, il y a toute une histoire du peuple juif qui se concentre et qui termine en disant « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre est un marchepied. » Quel bâtiment vous allez mettre autour de ça? Le ciel, c'est juste ma chaise pour m'asseoir. Puis la terre, c'est juste un petit pouf pour mettre mes pieds. Quel bâtiment vous allez mettre pour m'encabaner là-dedans? Dieu n'habite pas dans des tabernacles faits de mains d'hommes. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vous imaginez la réaction des Juifs et des pharisiens du premier siècle quand Étienne a dit ça à Jérusalem? Ça lui a coûté la vie. Parce que leur fierté était dans un temple extérieur et visible. Aux disciples, le soir avant sa mort, Jésus affirmait, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Voilà le nouveau temple. On va faire notre demeure chez lui, Jean 14, 23. Alors, bien entendu, les disciples de Jésus qui montrent leur fierté à travers un temple, et Jésus il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui va être démolie. La question vient tout de suite. Hey, clarifie-nous ça, Seigneur. Cette réponse à l'admiration des disciples bouleverse les disciples. Il dit, hey, le temple va être détruit. Et c'est la fin du monde, ça. Est-ce qu'on va avoir des signes précurseurs? Et dans le Luc chapitre 21, on ne parle pas de la fin du monde, la question n'est pas dedans, mais si on va voir les deux passages parallèles dans Matthieu chapitre 24 et Marc chapitre 13, on a le même message, le même discours répété dans trois évangiles. Et ils ajoutent non seulement quand est-ce que le temple va être détruit, mais quel est le signe de ton avènement pour établir le royaume, quel est aussi le signe de la fin de l'âge. Et dans Luc 21, comme dans Matthieu 24, comme dans Marc 13, Dieu va diviser le temps à venir en trois étapes. Et dans notre texte, comme dans les autres textes, il va être important de noter les expressions de temps. Dans notre texte, elle nous dit au verset 9, si ces choses doivent arriver premièrement. Alors, il y a un premièrement, il dit, ça sera pas encore la fin. Au verset 12, il dit, avant tout ça, avant toutes ces affaires-là, voici ce qui va arriver tout de suite. Et plus tard, à partir du verset 20, il dit, lorsque vous verrez ces choses-là, alors, ben là, il y a une troisième notion plus tard. Il va falloir faire attention dans la lecture de placer les expressions de temps. Parce que souvent, on lit un message de Jésus au premier siècle et il parle de certaines choses, puis on dit, ah, ben là, ça doit être pour la grande tribulation tout de suite. Et il y a des expressions de temps qu'on va devoir suivre dans Luc chapitre 21. Alors, le verset 7, il nous a mentionné, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses vont arriver, ces choses, la destruction du temple, la tribulation, son retour en gloire? Et Jésus va commencer à parler des premières choses qui vont arriver avant la fin. D'abord, il va commencer à parler dans les versets 8 à 11 du premier portrait général de ce qui va se passer dans l'âge présent. Dans les autres évangiles, il va parler de la période du commencement des douleurs dans lequel nous participons, nous, aujourd'hui. Il nous dit au verset 8 que ce sera des temps de séduction. Prenez garde que vous ne soyez séduits, parce que plusieurs vont venir en mon nom disant « c'est moi » puis le temps approche. Il y aura un temps de séduction, séduction du mensonge, séduction de faux prophètes, séduction de fausses religions. Ça va précéder le retour du Seigneur. On a vu ça dans les deux derniers millénaires. Il nous mentionne qu'il y aura aussi un temps de guerre au verset 9, de guerre et de soulèvement. Au verset 9, il dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent premièrement. » Ce n'est pas une caractéristique de la grande tribulation, c'est une caractéristique de notre ère. Vous en avez, vous, dans les deux derniers mille ans, des guerres, des soulèvements sociaux, des soulèvements politiques, toutes sortes de genres de soulèvements qui ont pour résultat d'enlever la paix sur la terre. Il nous dit aussi dans les versets 10 et 11 que ça va être un temps de déséquilibre, que ce soit un déséquilibre économique, que ce soit des déséquilibres écologiques. Il y aura des tremblements de terre, il y aura une nation qui va s'élever contre une autre nation, il y aura des nations plus fortes que d'autres. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes ou des épidémies, ou il y aura des famines, il y aura des grands signes dans le ciel. Vous regardez la TV comme moi, puis vous voyez que ce n'est pas quelque chose dans le futur. Il y en a des tremblements de terre aujourd'hui. Il y a des épidémies qui deviennent de plus en plus dangereuses. Il y a des famines qui deviennent de plus en plus intenses. Il y a des signes dans le ciel. Je faisais... Tu peux enlever celle-là, Stéphane. Je faisais la comparaison avec ce que l'on voit dans les Luc chapitre 21, les versets 8 et 11, et ce que je trouve dans les quatre chevaux de l'Apocalypse chapitre 6. Dans les quatre chevaux, il nous parle de ces sceaux, les premiers sceaux, comment ça va se répartir dans ce temps de douleur. Mais je regarde le premier, ce qu'on appelle les quatre chevaux de l'Apocalypse dans Apocalypse chapitre 6. Plusieurs vont venir en mon nom. Je regarde Apocalypse chapitre 6 et verset 2. Il y a un cheval blanc qui sort, un cheval trompeur, son cavalier. Il y a une couronne. Il est établi comme roi. Il partit en vainqueur pour vaincre. Il est un mensonger. Puis les gens vont s'accrocher à lui. Plein de religions dans le monde, peut-être à partir de Mahomet, de l'islam, sont des gens qui sont venus pour vaincre, pour conquérir, en disant c'est moi le Messie, c'est moi le grand prophète, pour tromper. Après ça, vous allez entendre parler de guerre, de soulèvement. Dans l'Apocalypse chapitre 6, on nous parle à ce moment-là du deuxième cheval qui est rouge feu. Et lui, il reçoit le pouvoir de bannir la paix de la terre, de sorte que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui est donnée. C'est ce qu'on voit encore dans les siècles passés. Après ça, il nous est dit que le troisième sceau s'ouvrait, puis il y avait un cheval noir, puis son cavalier tenait une balance dans la main, puis il disait un litre de blé au prix d'une journée de travail, une portion de blé pour une journée de travail. Il y en a que ça va être très difficile pour de pouvoir se nourrir. Une portion de blé pour une journée de travail, pour un denier. Pour les autres, ça va être trois portions d'orge, une céréale moins bonne pour une journée de travail. Il y a des gens qui vont vivre dans la misère, dans la famine. Tandis que d'autres, il dit, quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Tandis que pour ceux qui ont les produits de luxe, de vin ou d'huile, ben eux autres ne seront pas touchés. Il va y avoir dans le monde une nation contre une nation. Il y aura des déséquilibres économiques, des déséquilibres aussi écologiques. Il nous mentionne aussi des temps de famine et d'épidémie. Le quatrième cheval est un cheval blême, un cheval qui s'appelle la mort. Le séjour des morts le suit et il fut donné le pouvoir sur le corps de la terre. Et là, ça va être des famines, des épidémies qui auront une dimension internationale, mondiale. Le corps de la terre fait périr les hommes par l'épée, par les famines, encore le même mot, par les épidémies, par les bêtes féroces ou par les maladies engendrées à travers les animaux. Jésus dit dans Luc chapitre 21, le temps va tomber et il y aura dans le monde plein d'instabilité, de séduction au mensonge, de guerre et de soulèvement, de déséquilibre économique et écologique. Il y aura aussi, pendant ce temps-là, la proclamation de l'Évangile à travers toutes les nations de la terre. Oh, j'aimerais que vous tourniez dans Marc chapitre 13, verset 10. Marc cite les mêmes, gardez votre doigt encore dans Luc 21, puisque c'est notre texte. Mais Marc répète la même chose. On pourrait lire à partir du verset 7. « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera pas que le commencement des douleurs. » On est en train de répéter la même chose que dans Luc. « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, etc. » Et il dit au verset 10, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » à travers ces temps difficiles. C'est aussi un temps pour la patience de Dieu de se manifester, pour que l'Évangile soit annoncé dans tout le monde, pas juste autour du Temple de Jérusalem. Je vais détruire le Temple pour que vous permettre de répandre l'Évangile par travers tout le monde. Allez par toutes les nations, Jésus disait, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vais permettre la destruction du Temple de Jérusalem parce que je vais habiter en vous et je veux que l'Évangile soit répandu à toutes les nations jusqu'au bout de la terre. C'est ce qui nous donne encore les premières choses qui arriveront avant la fin. Nous les vivons présentement. Et après ça, au verset 12 de Luc 21, mais il dit, avant tout cela, avant que tout ça, ça se présente pendant, il ne nous a pas dit les 20 siècles, ça fait 20 siècles de ça, là. Pendant que tout ça va arriver durant les 20 siècles, il dit, avant tout ça, il va arriver quelque chose. Tout de suite, au début, il va arriver quelque chose. Verset 12. Mais avant tout cela,